Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova.
C'est très joli cette bougie.
Non, c'est au cas où on se retrouverait dans le noir.
Oui, non, enfin, je vois très bien ce que vous pensez, n'est-ce pas? Vous trouvez que je n'ai pas d'humour, je ne sais pas raconter les histoires.
Ah non, pas du tout, parce que vous racontez très bien. Franchement, vous m'avez dépassé cette soirée aux dandises avec brio.
Avec qui?
Non, avec personne, avec brio, c'est une expression qu'on emploie, si vous voulez.
Vous voyez, là, c'est l'exemple frappant, quoi. J'ai voulu faire de l'humour, bah, c'est tombé complètement à plat.
Ah, avec brio. Ah, oui, c'est très bon, c'est très bon.
Non, c'est trop tard.
C'est fin, très fin, ça se mange sans fin. Bienvenue à Galaswinda, Darladi Dadada, il y a du soleil et des nanas, on va s'en fourrer jusque-là. Sur quoi repose l'humour de la troupe du Splendide? D'où vient structurellement le succès de ce collectif comique fondé au début des années 70 par quatre pensionnaires du lycée Pasteur de Neuilly-sur-Seine? Christian Clavier, Thierry Lhermitte, Gérard Jugnot et Michel Blanc, rapidement rejoints par Marianne Chazelle, Josiane Balasco et un certain Bruno Moineau, parfois accompagnés de Martin Lamotte ou Dominique Lavanant. C'est le propos du critique Warren Lambert dans Tropique du Splendide, bref essai sur la France des bronzés, qui vient de paraître aux éditions Leitmotiv. De la trilogie des bronzés au Père Noël est une ordure, du scénario des Babacool à celui de mes meilleurs copains, en passant par la fascinante tentative de Michel Blanc dans son film Grosse Fatigue d'exorciser cet esprit de bande mesquin et conservateur, comment expliquer ce rire fondamentalement bourgeois qui, je cite, endort, berce et matraque? Ce rire de dominant sans égard pour les dominés. Quatre extraits de ce livre vous sont lus ce soir, car, comme dit l'infâme Pierre Mortaise de l'association SOS Amitié Détresse, écoutez, de l'extérieur, c'est magnifique, mais vu de l'intérieur, ce n'est pas bien splendide. Bonsoir, c'est Richard Guettet, bienvenue dans la Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova que vous retrouvez du lundi au jeudi de 21h à 22h, tel un phare dans la nuit. Voici tout de suite un premier extrait du livre de Warren Lambert, Tropique du Splendide, bref essai sur la France des bronzés, à propos de deux films auxquels participa Christian Clavier, soit comme acteur et scénariste, Les Babacool et Mes meilleurs copains.
Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova.
J'ai rêvé de toi cette nuit, tu étais nu sur un âne et tu jouais du sitar.
C'est sympa comme ambiance ici. Mais c'est quoi comme trip? Nécolo, sexo, mystico?
Hein?
On prie ou on baise?
L'émancipation présente parmi les films de la troupe du Splendide. Film qui prétendirent traduire le branle-bas des années 70, cette émancipation n'aura été rien d'autre que le réceptacle de leur désir à eux. Elle simula les spasmes factices d'individus condamnés à devoir accepter leur milieu, toujours bourgeois, à faire semblant de s'y battre, de s'y débattre un peu. De par sa fonction pacificatrice vis-à-vis des élans contestataires qu'il se prévalut de dépeindre, les Babacool, film de François Le Terrier en 1981, peut à bon droit être considéré comme la suite de l'an 01. En 1973, film tiré de la bande dessinée de GB qui ouvrit les bras aux néophytes du Splendide, narrant sous forme de courtes séquences un complot allègre d'ampleur internationale de réappropriation des outils de production, aussi bien techniques, agricoles, médiatiques et politiques. Le pas de côté GB1, qui vit hélas son utopie sabordée par sa mise en spectacle, ne fut alors plus chez Le Terrier que la routine récréative, caduque et gentrifiée, d'une classe encline à jouir des avantages des libérations passées, auxquelles elle n'a jamais pris part, mais non de ses inconvénients, et qui aspirait à capitaliser sur la révolte dans la mesure où celle-ci transmurait en une banale monnaie d'échange.
Mais comment ça se passe dans une communauté quand on est plusieurs avec la même fille?
Ouais, ça dépend, hein.
Moi j'ai connu une commune en Ardèche où il y a des tickets de baise.
On essaie de vivre en accord avec la nature.
Le pitch des Babacool. Antoine Bonfils, représentant itinérant en électroménager, découvre en Provence une communauté dont le mode de vie et les idéaux vont bouleverser son conformisme bourgeois et citadin. Attiré par le sexe facile, il va cependant vite découvrir que les revendications de ses hôtes ne sont que poudre aux yeux. C'est un film qui porte en lui le premier témoignage d'une vision bientôt instituée du combat, à la fois comme déception et comme prestige dans un double mouvement coordonné, prenant pour ce faire le hippie comme figure majeure de la protestation, cible malléable, ridicule, car inoffensive, pétrie de contradictions et de faux principes. Le hippie leur servit à introduire une espèce de synecdoque du militantisme, véritable pose vivante, pavée d'intentions et de prétentions. Que le hippie ait pu autant plaire aux membres du Splendide tient à ce qu'ils virent en lui leur envers, beauf et clochardisé, une copie de chip si confondante qu'ils ne purent vouloir que l'annihiler au nom même de cette vision qui entendait faire d'eux les seuls vrais agents légitimes de la défaite. Désinguant les hypocrites, ils firent d'eux des hommes de parole. Et de cette « sincérité », entre guillemets, ils feront une signature, un monopole et un business. Dans les Babacool, tous sont par conséquent de grands enfants qui jouent à la rébellion pour draguer, se faire peur et glaner au passage une bonne conscience reconstituée en menant une campagne de récupération de ce qu'ils prennent pour de grandes idées libérales, la libération sexuelle par exemple, pour remplacer l'adultère un peu démodé.
Bon, qu'est-ce que vous prenez ?
Je sais pas. Ce que tu veux, mon grand.
Pardon ?
Ce que t'as envie de nous servir, ça ira pour moi.
Bon, j'ai pas le temps de plaisanter. Là, je travaille, moi. Alors, qu'est-ce que vous voulez boire ?
T'énerve pas. Sois cool, mon grand.
Attention, toi, là, tu m'appelles pas mon grand, connard, hein ?
Et cool, tu vas te coller un ulcère avec ton agressivité. T'es déjà jaune comme un coin, ouais.
8 ans plus tard, Jean-Marie Poiré aura l'idée d'étoffer cet archétype du hippie en écrivant avec son prolifique complice Christian Clavier, acteur principal dans Les Babacool, le film Mes meilleurs copains en 1988, à forte teneur autobiographique et qui narre, le temps d'un week-end dans une maison de campagne, la réunion d'une bande d'amis dont les déboires sentimentaux vont être le prétexte à une mise au point sur les parcours respectifs de chacun, tous s'étant connus durant cette période séditieuse des années 70, animés par des ambitions musicales auxquelles ils durent renoncer. Poiré, musicien ayant appartenu à un groupe punk rock, The Frenchies, a voulu, et de nombreuses occurrences le trahissent, filmer cette histoire d'embourgeoisement de 5 hippies en youpie, qui est la sienne, telle une contre-histoire fantasmée des Beatles, dans laquelle ces derniers auraient été inconnus du monde de la musique, auraient été affreusement mauvais, mais, summum de son outrecuidance, auraient néanmoins gagné. Les Beatles étaient 4. Et le film de Poiré, par l'ardeur égotiste de ses personnages les plus charismatiques, prend soin de montrer le seul à être resté intègre, Danny, joué par Jean-Pierre Darroussin, et qui, de la vie de tous, possédait un réel don à la guitare, de le montrer comme un arriéré, reconnu dans la toute dernière séquence, comme le seul des 5 à avoir raté sa vie.
Nova Book Box, allez, sois chou, lis-moi un bout.
Sur la bande originale des Babacool, on trouve cette chanson superbe de Nino Ferrer qui s'intitule « Riz complet », politiquement plus courageuse que le film tout entier.
Dans cette ville où tout est triste, je suis un escargot sinistre, je me recroqueville et m'enquiste, je m'ennuie. Je suis coiffeur, secrétaire, mécanicien, bibliothécaire, j'habite la banlieue ouvrière et je m'ennuie. Je m'ennuie, je voudrais faire autre chose de ma vie, de ma vie. Je m'ennuie, je voudrais savoir comment sortir d'ici. Car il n'y a pas d'échappatoire du mauvais côté de la barrière, depuis l'école jusqu'au cimetière, je fais ce qu'on me dit. D'HLM en club de vacances, sans but, sans orgueil, sans vaillance, je ne peux que suivre la danse et faire comme si. Je m'ennuie, je voudrais faire autre chose de ma vie, je m'ennuie, je voudrais savoir comment sortir d'ici. Vivre d'un monde de musique et de riz complet, quelque part.
en commun l'amour, le fric et le turbin. Oublier le monde qui s'écroule et, faute de mousse, planter de l'herbe dans son jardin, puisqu'on est des pierres qui roulent. Merci Nino Ferrer. Puisqu'on est des pierres qui roulent, roulons vers un deuxième extrait du livre de Warren Lambert, Tropique du Splendide, essai sur la France des bronzés, qui vient de paraître aux éditions Leitmotiv. Un extrait qui s'attarde sur un moment très révélateur de l'humour pratiqué par la troupe du Splendide, une scène cruelle tirée du Père Noël est une ordure.
Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova.
Au cours d'une scène du film Le Père Noël est une ordure, après qu'on a vu Katia danser auparavant avec un Pierre Mortaise réticent joué par l'ermite, l'un des permanents de l'association SOS Détresse Amitié, qui a fini par insulter le vice épidermique que cet inverti suscitait chez lui, celui-ci fait un retour intempestif pour récupérer son briquet prétendument oublié et, sur le point de franchir le pas de la porte, ne peut se retenir d'éclater en sanglots.
Mais je suis un poète à pas, mais je réclame le droit de vivre, voilà !
Hurle-t-il aux bénévoles de l'association, alors en pleine dégustation d'huîtres, lançant avec rage sa perruque brune sur leur plateau de fruits de mer. Mortaise, à qui sa collègue demande de se réconcilier avec cet ami embarrassant, vociféra alors en réponse
« Je me tue à vous dire, ça n'est pas mon ami, ça n'est pas mon ami, ça n'est pas mon ami !»
Et avant même que l'avanie soit finie d'être prononcée, c'est là, lors d'un bref contre-champ, dans un moment d'ailleurs absent de la pièce, que scintillent au bord de ses yeux incrédules les larmes retenues de Katia, juste avant que ne s'échappe de ses lèvres un soupir inframince d'exaspération. On peut sans peine affirmer que réside dans ces quelques secondes une des seules vérités d'émotion de toute la filmographie du Splendide, où leur citadelle a montré un bref instant de fléchissement. Le spectacle débordant d'un aveu qu'il n'a su contenir, à savoir, sous ses aspects corrosifs et hilarants, qu'il prêtait plus souvent à pleurer qu'à rire. Katia, à l'image des otages consentants, des générations de spectateurs à l'avoir vue, est celle qui aurait dû partir. Cette Cassandre que la colère a clouée sur place au point d'intégrer de guerre lasse les rangs des salauds qui la persécutent et la méprisent. Celle qui a fini par voir dans ces mêmes salauds qu'elle pense indispensable à sa vie, un moyen, même au rabais, d'exister au moins un peu. Si on sent jusqu'au bout Katia destinée, comme le titre de la chanson de Guy Marchand sur laquelle elle dansait quelques minutes auparavant, à se sclérifier dans cette procrastination mélancolique et insatisfaite, c'est que cette dernière a trop vite renoncé à interroger ce que lui avaient pourtant dit ses larmes.
Destinée, on était tous les deux destinés à voir nos chemins se rencontrer, à s'aimer sans demander pourquoi, toi et moi, destinés.
Un principe analogue sévit pour Preskovic, le voisin du dessous, qui monte régulièrement régaler de la nourriture de son pays, immonde, cela va sans dire, ce qui, manu militari, le flanque sans arrêt à la porte de leur nef caritative. Aussitôt, l'adaptation de Poiré de la pièce éponyme au grand écran pourrait alors se circonscrire en deux modifications cruciales et significatives. Vis-à-vis de Katia, la reconnaissance succincte mais douloureuse de l'abjection des soi-disant sauveurs associatifs et, vis-à-vis de Preskovic, la privation du droit que lui offrait la pièce de se donner la mort en même temps qu'il la donnait à l'ensemble de l'immeuble. Au lieu de leur mort, Poiré décida, dans une surenchère qui remplace dans le film le suicide de Katia dans la pièce, de sacrifier le réparateur d'ascenseur.
Appuyez sur un bouton stop !
Bloquez l'ascenseur ! Bloquez l'ascenseur !
Il y a quelqu'un ?
Oh ! Ah ! Ça y est ! Oh ! Oh non !
Stop ! Stop ! Appuyez sur le stop ! Stop ! Le bouton rouge ! Vite ! Vite !
Le bouton rouge ! Le bouton !
Dépêchez-vous !
Oh !
Le bouton rouge ! Appuyez sur le bouton rouge !
On va se faire empaler ! Oh, c'est horrible ! Ah !
Nova Book Box. Parfois, une page suffit.
En préparant cette émission presque entièrement basée sur le livre de Warren Lambert, qui s'interroge sur le contenu politique radicalement conservateur des films du Splendide, nous en sommes venus à nous demander ce que nous avions en stock dans la très très grande discothèque de Radio Nova en termes de chansons qui seraient à la fois comiques et politiques. Et la première idée qui nous est venue, c'est ce morceau pop intitulé « Juif arabe » de Philippe Catherine. Rappelez-vous de ce clip merveilleux, on voit Catherine habillée en pape au comptoir d'un club gay, entourée d'hommes torse nus, musclés, noirs, vraisemblablement juifs ou arabes, pour interpréter, danser, chanter cette chanson pacifique et sexy qui ne fait que répéter « Juifs, arabes, ensemble ». Merci pour tout, vraiment.
Juifs, arabes, juifs, arabes, arabes, juifs, juifs, arabes, ensemble, ensemble.
Parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule. Et si, justement, quelqu'un avait quelque chose à dire sur la troupe du Splendid, sa façon de rire, son paradigme sociologique, visible à travers leurs films et leurs scénarios. C'est le cas de Warren Lambert dans son livre Tropique du Splendid. En voilà un troisième extrait qui se penche sur la première idée de scénario fomentée en 1975, alors tout début, par Junio, l'ermite et Clavier.
Vous n'avez plus le temps de lire. Nova chausse ses lunettes et vous ouvre les portes de sa très très grande bibliothèque.
Ça me viendrait jamais à l'idée d'utiliser des chiottes pour filer des rancards, moi.
Bah, c'est pourtant logique, c'est un endroit de passage.
Moi je te dirais, moi c'est pas mon cas, mais ça c'est des petits mecs qui ont pas de succès. C'est des timides, alors il faut pas qu'ils se débrouillent. Ça c'est des petits gars qui ont pas peps.
Le quoi?
Le peps.
Comble du confinement et de la turpitude de son œuvre à venir, le Splendid fit ses débuts en investissant cette pièce déterminante et essentielle, les toilettes. Junio, Clavier et l'ermite amorcèrent en effet leur curriculum d'auteur en vendant au cinéma de papa une improbable et bien oubliée histoire de casse opérée depuis les toilettes relais situées au sous-sol de la gare de l'Est. Ce scénario, certes révisé par le réalisateur Jacques Besnard et son scénariste Jean Alain, restera en substance une histoire de fric et de chiottes, dessinant l'abscisse et l'ordonnée de leur positionnement humoristique. Dans le titre synthétise à lui seul la future trajectoire de la bande, émanant d'un précédent spectacle mis en scène à leur café-théâtre et apposé à leur scénario comme un slogan plaqué à ses péripéties vénales scatologiques.
Ce n'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule, n'est-ce pas ?
Dans son livre d'entretien autour de l'immortalité et du principe de compétition dont elle fait l'objet dans les domaines des arts et de la philosophie, Boris Groy, parlant de Nietzsche et de Suran, dont l'ambition philosophique fut de produire un succès sur la base de leurs échecs personnels et existentiels, cite cette phrase d'Heidegger pour évoquer l'impossibilité du médiocre de rester à sa place. Le muet ne peut pas se taire. Outre son étroite correspondance avec le titre Action recyclé par la bande à Junio, cela signifie, rajoute Boris Groy, je dois réussir pour pouvoir échouer avec succès. Cette démarche, mais pourvue d'une perspective dévorante, a été celle du splendide en voulant devenir, dans cet après-après-guerre, l'avant-garde de l'échec. Dans « C'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule », Tsila Shelton endosse le rôle de la dame pipi qui va s'associer au braqueur, elle qui, rappelons-le, a formé les membres du splendide à devenir comédien. Quand les trois compères de la troupe, le temps de brèves scénettes, y interprètent successivement un contrôleur, un CRS et un militaire. Or, dans l'an 01, le film réalisé d'après la BD de GB, il faut se souvenir que c'était les trois mêmes, Junio, Clavier, l'ermite, qui regardaient déjà, assis devant le poste de télévision d'un troquet, la psychose des conspirateurs joués par Cavana, Choron, Cabu et Wolinski, s'accréditant d'en être la relève volontaire et légitime. Oracles inquiétants du devenir hégémonique du splendide, dont le trajet n'aura consisté qu'à passer en douce de l'arrière-plan au premier plan. On pourrait même citer, en guise de conclusion à leurs exercices de grand écart, la scène de la liqueur d'ail échalote, proposée à la dégustation par deux montagnards un peu rustres dans « Les bronzés font du ski ».
Ah ! Ah, c'est fort ! Ça débouche la chiotte, ça !
C'est pas une boisson pour mauviette.
Je fais cette merde !
C'est de la liqueur d'échalote. Mais c'est relevé au jus d'ail. Parce que l'échalote tout seul, ça serait trop fade.
Scène qui, en plus de copier au gag près celle de la gnôle mexicaine des tontons flingueurs, fonctionne par symétrie de ce marc de chien d'en distillé, étonnamment goûtu, du film L'an 01. Et que savourait avec une espérance fervente au moins trois acolytes du splendide en 1973. Cinq années plus tard, les corps pliés, terrassés ou suffocants de cette scène rurale semblent pourrir, étouffés sous les couleuvres ou les crapauds mis en bouteille de leurs innombrables retournements de veste.
Nova Book Box, c'est l'amour livre.
Rire et chanson suite. Je sais que musicalement c'est limite, mais laissez-moi s'il vous plaît, chers auditeurs, chères auditrices, vous jouer seulement 1 minute et 27 secondes de cette chanson de Didier Super qui s'intitule Manipulez-nous mieux. C'est plus marrant qu'un meeting de Mélenchon, mais non moins chargé de convictions.
Alors ça c'est ma chanson que j'écris pour faire trembler tous les gouvernements du monde. On est perdu, on croit plus rien, même les vieux ils ont capté qu'en fait notre président c'est pas lui qui dirige vraiment, que nos vrais chefs c'est des banquiers qui ont réussi mieux que lui. Et c'est pour ça, droite ou gauche, eh ben non, ça reste à droite. Tout le monde sait qu'on gagne les élections comme on vend des yaourts, simplement en passant à la télé tous les jours. Mais ma mère elle a capté que la crise n'existe pas, que c'est l'invention de certains gros riches pour vendre nos usines aux Chinois. Tout le monde a compris que les infos, ça sert juste à nous faire peur en nous montrant la merde des autres pour qu'on se contente de la nôtre. Alors vous, les beaux costards qui décidez de notre sort, ne nous laissez pas comme ça, ça fait trop peur, faites un effort. Manipulez-nous mieux, manipulez-nous mieux. Construisez vos piscines en fermant nos usines. Mais putain, faites-nous rêver, faites-nous croire que vous nous aimez. Manipulez-nous mieux, manipulez-nous mieux. nous imposer de genre cadeau. Mais faites-nous croire qu'il y a des martiens, ça fera moins peur que croire en rien.
Grosse fatigue. Je ne parle pas de moi, il est encore un peu tôt, mais bien de ce film écrit et réalisé par Michel Blanc, prix du scénario au Festival de Cannes 1994. Grosse fatigue, dans lequel l'acteur joue son propre rôle en tentant d'exorciser à la fois le poison de la célébrité et les démons de son passage au sein de la troupe du Splendide, comme l'explique le critique Warren Lambert dans son livre Tropique du Splendide.
Nova Book Box, des bouquins à la louche, lus à la bouche.
Vous êtes Michel Blanc ?
Je sais pas, il est encore trop tôt là. Et vous ?
Michel, qu'est-ce que vous prenez ? C'est
d'accord ! Mais j'en sais rien, bordel, j'en sais rien !
Au moment où Michel Blanc entreprend de tourner Grosse Fatigue, il n'a rien réalisé depuis le succès de Marche à l'ombre en 1984. Le poids du personnage de Jean-Claude Duss, dont ce précédent film sonnait comme l'ultime rappel, s'en ressent par son corps empâté, congestionné par son parcours, ensommeillé dans une vie cauchemardesque où rôde le rêve, devenu lassant de la veille. Vient alors, du jour au lendemain, cette envie d'accuser le monde comme un enfant, de le liguer pour de faux contre lui, en faisant mine d'y perdre pied pour y noyer le salaud comme on noierait le poisson. La salubrité serait cet anonymat doublement désiré, tel la rançon bien méritée du dégoût de soi.
Monsieur Blanc, je pense que vous n'êtes ni Dr. Jekyll, ni Mr. Hyde. Je pense seulement que vous êtes un acteur surmené.
Lorsque dans Grosse Fatigue, Michel Blanc découvre l'existence de Patrick Olivier, sa copie conforme rurale qui, dans son dos, lui a mené la vie dure depuis plusieurs jours, il s'aperçoit surtout que c'est le monde d'où il vient, celui des stars, de la sophistication, du ridicule, qui a déjà gagné et tout gangréné. Patrick n'en sortira victorieux que parce qu'il n'a jamais cessé d'être le premier. La dépression de Michel Blanc n'étant qu'une passade qui se sera déroulée hors de lui, son lui véritable incarné par Patrick. Si, malgré tout, il envisage un moment tuer celui qui lui a permis d'en arriver là où il est, Blanc va commettre une faiblesse de plus envers cette image à laquelle il ne peut décidément rien refuser, acceptant ce marché déraisonnable, un soir d'égarement au bord d'un sentier de campagne, et où il laisse rentrer à nouveau dans sa vie pour faire le sale boulot, croit-il, les promotions télé et les rôles foireux, sa chose dont découle tout son malheur. Blanc n'aime décidément pas voir ce qu'il est. Ce vertige était le nerf de Grosse Fatigue, et c'était ce qui rendait si poignant son exorcisme. Progressivement, Michel Blanc sera réduit corps et biens à ne demeurer que l'autre nom de Patrick Olivier, ce fils prodigue originaire de cette campagne peuplée de crédules et d'admirateurs, qui, en étant parvenu à s'exfiltrer de cette vie, leur fournit à eux tous, indirectement, la caution d'une existence pour laquelle il s'est lui-même battu. Faire triompher la duperie qu'il représente est donc le moyen pour lui de garder une vitale interdépendance avec son public, de faire en sorte de maintenir la folie qu'elle suscite chez ses congénères anonymes, qui les aveuglent, et à laquelle Michel Blanc rêve au contraire d'échapper.
Dans mes mains, il y a les 5 Carole Bouquet, et je tripote les 5 Carole Bouquet.
Oui, et alors ?
Qu'est-ce qui se passe ? T'as pas de copine en ce moment ?
Non, justement, elle s'est tirée avec Patrick Bruel.
Tragiquement, son double aura servi à la fois de révélateur à cette hystérie, en même temps qu'il aura été l'agent machiavélique de sa conservation, faisant de Grosse Fatigue un constat pessimiste sur la clairvoyance de ceux que le Splendide rallia à son monde de supercherie et de faux-semblants. Un diagnostic patent lorsqu'au cours du braquage à main armée d'une bijouterie perpétrée par Michel Blanc pour causer du tort à celui qui a pris sa place, un client cherchant à le flatter pour lui faire recouvrer la raison lui dit qu'il l'avait particulièrement aimé dans « Le Père Noël est une ordure ». Ce à quoi Blanc s'empresse de répondre, vexé avant de faire feu sur la vitrine.
« J'ai pas joué dans Le Père Noël ! Ouvrez ce coffre maintenant !
Plutôt, la scène où ses anciens camarades du Splendide, après un examen sans appel de sa physionomie, le jettent brutalement dans la cage d'escalier de son immeuble parisien est l'épreuve finale de la trajectoire cauchemardesque de Michel Blanc, le moment de bascule où ceux vers qui le film se tournait secrètement, ceux qui en étaient le soutien tacite et intarissable, ont tous l'air, par la seule présence de Patrick Olivier à leur côté, plus faux encore que leur souffre-douleur.
Nova Book Box, l'insoutenable légèreté de lire.
En 1980, à peu près au moment où la troupe du Splendide signe coup sur coup les deux volets des Bronzés et la pièce de théâtre du Père Noël est une ordure, les Monty Python, groupuscule d'humoristes autrement plus nobles, signaient cette ballade ironique à la gloire d'Henry Kissinger, qui, je le rappelle aux plus jeunes, était le secrétaire d'État des gouvernements Nixon et Ford. Il a reçu le prix Nobel de la paix en 1973 pour son action dans la résolution de la guerre du Vietnam et de la guerre du Kippour. Mais il demeure un personnage politique largement controversé. Et puisque Kissinger est toujours vivant, il a 95 ans. J'espère qu'il réécoute de temps en temps cette chansonnette qui lui rappelle qu'il a de plus jolies jambes qu'Hitler et des seins plus gros que ceux de la chanteuse Cher.
Henry Kissinger, oh, I'm missing you. You're the doctor of my dreams. With your crinkly hat and your glassy stare and your Machiavelli. Henry Kissinger, though I'm missing you and wishing you were here. Henry Kissinger, though I'm missing you, you're so chubby and so mean. With your funny clothes and your squishy nose, you're like a German parrot. So people say that you don't care, but you've got nicer legs than Hitler and bigger tits than Cher. Henry Kissinger, oh, we're missing you and wishing you were
here. Et pour terminer cette émission politique et comédie, je vais vous lire un bref passage de l'entretien accordé au Cahier du cinéma par le réalisateur américain Adam McKay, producteur de ce film fabuleux, The Campaign, en français « Moi député », avec Will Ferrell et Zach Galifianakis. Adam McKay est également le metteur en scène de présentateur vedette, la légende de Ron Burgundy, aux imbéciles animateurs télé macho, du film « The Big Short » et sa leçon sur la crise financière, ou encore, tout récemment, de Vice, un biopic de Dick Cheney, avec Christian Bale, qui sort en salle demain. Interviewé par Jean-Philippe Tessé, Adam McKay a livré deux ou trois réflexions bien senties sur l'art de réussir une comédie contemporaine.
Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova.
Hey, are you awake?
Yeah.
I just want you to know I hate you. And so does my dad.
Well, that's fine. Because guess what? I hate you too. And this house sucks ass.
Entre Mike Myers, les frères Farrelly et, disons, Seth Rogen, qui serait un peu le dernier de la bande, il y a eu une dizaine d'années très intéressantes pour la comédie. Mais ces films sont un peu passés de mode. Dans ces films, vous ne voyez que des hommes blancs, et comme les films étaient de plus en plus auto-référencés, ça devenait des films faits par des hommes blancs, pour des hommes blancs, avec des hommes blancs qui se moquent des hommes blancs. Or, aujourd'hui, les gens n'ont plus vraiment envie d'entendre parler des hommes blancs. Et on ne peut pas leur en vouloir, je crois que ça restera comme le moment où l'on pensait que c'est en se moquant des hommes blancs que l'on pourrait atténuer leur domination et améliorer la société. Mais l'état de la société est allé de mal en pis et plus personne ne pense ça désormais. Les films de Judd Apatow, c'est vrai, sont plutôt conservateurs. Ce sont des histoires d'hommes blancs qui finissent par se rallier aux valeurs morales traditionnelles américaines. On ne peut pas vraiment dire ça de mes films, non, certainement pas. C'est pour ça qu'ils résistent autant, je crois. Frangin malgré eux ou La légende de Ron Burgundy sont de plus en plus aimés, surtout Frangin malgré eux, parce que ce dont parle le film n'a pas changé. De quoi parle-t-il ? L'Amérique est un pays consumériste et capitaliste. Le propre du consumérisme, c'est de donner aux gens ce qu'ils veulent, les rassasier en permanence et leur mettre dans la tête que le client a toujours raison. Nous autres, les Américains, nous sommes des gros bébés, infantilisés et traités comme tels. On obtient tout ce qu'on veut, on nous donne la béquée, on est fan de ceci ou de cela, on se dispute pour savoir qui est le plus fort dans les Avengers. Et je ne vaux pas mieux. Je lis des BD, je regarde des émissions télé débiles, je mange des Taco Bells. Et puis, regardez le film Ready Player One. Spielberg est un très grand cinéaste, bien sûr, mais j'ai été interloqué par l'hyper-agressivité de la nostalgie dans ce film. Je croyais que le film allait montrer qu'il faut se libérer de tous ces trucs puérils pour créer quelque chose de neuf. Mais c'est le contraire. C'est assez fascinant. Quand j'ai abandonné mes études en Pennsylvanie, dont je suis originaire, pour m'installer à Chicago, j'ai suivi l'enseignement de Del Close, qui a eu pour élève une foule de comédiens, de scénaristes, de réalisateurs, dont Mike Myers, justement, ou Tina Fey. Del Close m'a appris qu'on pouvait faire de la comédie avec un message politique. Il disait « Visez toujours quelque chose d'artistique dans la comédie, parce que si cet aspect est raté, au moins, il vous reste une comédie. » Alors, que si vous vous contentez de faire une comédie et qu'elle est ratée, il ne vous reste plus rien. L'idée est de ne pas séparer la comédie de l'art, de la société et de la politique.
Nova Book Box, Nova te masse la tête avec des mots.
Let's play a game, all right? On the count of three, name your favorite dinosaur. Don't even think about it, just name it. Ready? One, two, three. Velociraptor.
Favorite non-pornographic magazine to masturbate to.
Good Housekeeping.
If you were a chick, who's the one guy you would sleep with?
John Stamos. What?
Did we just become best friends?
Yup.
Do you want to go do karate in the garage?
Yup.
Well, you make my dreams come true.
1980, You Make My Dreams Come True. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Ce hit splendide du duo américain Hall & Oates, tiré de la BO de Step Brothers d'Adam McKay, c'était en 2008. La Nova Book Box, c'est terminé. L'émission de ce soir a été réalisée par Sullivan Clabeau. Programmation musicale, Michael Lio. On se retrouve demain avec une sorte de pré-Saint-Valentin, avec les histoires sexuelles authentiques, très variées, et tout à fait joyeuse, récoltée à travers toute la France et à l'étranger par le scénariste de bande dessinée Fabien Wellmann, histoires qui sont ensuite dessinées, illustrées par David Prudhomme dans le deuxième tome de L'Herbier Sauvage. Vous portez le book et vous aimez la boxe, branchez-vous sur la Nova Book Box. Bonne nuit et à demain.
Nova Book Box, une jukebox littéraire de Radio Nova.